La poésie, cette île, une île à mots, lieu d'enfance, lieu des tombes, c'est celle du poète Yvon Lemaine, et parfois c'est l'île du Levant, au large de Hyères, entre utopie naturiste et camp militaire, sous la plume de l'écrivain Frédéric Sirier.
Poésie et ainsi de suite, par Manou Farine.
Frédéric Sirier, Yvon Lemaine, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Frédéric Sirier, vous êtes écrivain. Après Des Néons sous les mers, roman Bordel, dites-vous, soit le récit sur un mode ethnographique d'un bordel autogéré dans un sous-marin amarré à Paimpol. Et Mélo, triptyque parisien cette fois pour trois personnages déclassés qui plaçaient la figure du sapeur congolais en son centre. Vous signez aujourd'hui Je suis capable de tout aux éditions Verticales, cette fois roman de plage. Dites-vous, roman comme un collage de langues qui s'ouvre sur le portrait empathique de deux lectrices, une mère et sa fille, sur l'île du Levant. L'une, lectrice convaincue d'un ouvrage de développement personnel, mention coaching mental. L'autre, de manga japonais, mention polar, sentimental, tokyoïte, androgyne. On y reviendra avant que le réel ne s'en mêle à mi-parcours. Ce qui vous fait d'ailleurs écrire cette phrase au détour d'une page l'air de rien. La lecture est un acte dramatique. En lettres capitales, drôlement capitales, j'imagine, vraiment.
Eh bien, je souscris à cette petite formule, effectivement, que je glisse et que vous avez judicieusement repérée. La lecture est un acte dramatique, oui, au sens où un livre, c'est un événement. Je pense où les lecteurs ont aussi leur histoire, l'histoire de leur lecture. Et où un livre, on s'en empare et puis on le quitte. On gagne, on perd. Quelque chose est venu, quelque chose est parti. Voilà. C'est très proche de la disparition. C'est très Mallarmé, finalement. Voilà.
Yvon Lemaine, vous êtes poète, romancier parfois, conteur, comédien.
Parfois, oui.
Une écriture qui naît chez vous en Bretagne, au milieu des années 70, ou disons tout début des années 70, avec Vie, le premier d'une trentaine de recueils traduits dans une vingtaine de langues. Une écriture qui passe infatigablement par la transmission et le partage des voix poétiques issues de tous les continents, notamment dans le cadre de l'Étonnant Voyageur qui se tient la semaine prochaine à Saint-Malo. Vous signez aujourd'hui Les Rumeurs de Babel aux éditions Dialogue, illustrées par Emmanuel Lepage. Tirer la langue aux éditions La Passe du Vent et Une île en terre aux éditions Bruno Doucet, une belle rafale d'édition. Premier volume de la trilogie, Les continents sont des radeaux perdus, une île pays, comme je le disais, une île hameau en Bretagne bien sûr. 5-6 maisons, une route au milieu, la première église, la première école à 3 km à pied, entre chiens et loups pour les enfants, à vélo, puis plus tard à mobylette, à pas d'heure pour les parents. Mon pays, c'est le pays de mes tombes. Mon pays, c'est le pays de mes rêves qui passaient par la lucarne de la cuisine, en bleu et blanc, comme les cygnes sauvages quand ils traversaient les nuits de mes premières lectures. Une pile électrique sous les draps. Sans ciel, pas de terre. Sans terre, pas de ciel. Voilà pour votre île, donc Yvon Lemaine. En terre, donc, ce sont les toutes premières lignes du recueil. Ciel et terre, est-ce que c'est sur ce que vous appelez, vous, ce fil tendu à la verticale que grimpe les poèmes, et c'est vrai qu'à la lecture de ce recueil et de bien d'autres, on a toujours cette chose qui frappe en premier temps, c'est-à-dire l'idée d'une écriture qui opérerait un mouvement vertical.
Oui, c'est assez simple dans le fond, parce que la verticale est née un jour très précis dans ma vie, c'est le jour de l'enterrement de mon père. Le 27 septembre 1965, où en regardant le trou dans lequel on le mettait, il n'y avait qu'une seule solution, c'est de regarder plus haut, et de regarder en l'air. Et de tendre une verticale entre le trou, donc allonger le cadavre, ce mot-là je ne l'employais pas bien entendu, mais ce corps qu'on d'ailleurs disparu dans une boîte qu'on allongeait, et puis les étoiles pour s'en sortir. Et c'est drôle parce que je me souviens du jour de son enterrement à l'église de La Roche où il y avait 4 prêtres, ce qui est beaucoup pour un ouvrier. Et j'ai senti que mon père était un roi ce jour-là, quoi. Voilà. Fils de roi, fils de rien, comme disait Xavier Grall. Et je suis passé, pour sortir du sol, je suis passé par les manchettes qui brillaient au bras droit de mon parrain et j'ai poursuivi par les vitraux. Donc la verticale a pris une petite échelle pour sortir par la fenêtre. Et le poème, pour moi, c'est ça. C'est une verticale, même quand je parle à l'horizontale, comme dans l'autre livre Les Rumeurs de Babel, où je suis en face des gens et pas en train de les regarder avec condescendance, évidemment. Même si c'est une horizontale, elle est si c'est de l'un à l'autre comme ça, elle passe toujours par une, elle sort par la verticale, quoi. C'est notre grandeur, je pense.
Au fil de ces poèmes, Yvon Le Maine, on croise un petit peu comme on regarderait des photos en noir et blanc, le fauteuil de votre grand-père, le grand-père de votre voisin, des scènes de messe, d'église, donc au travers des vitraux, votre mère, un oncle assis de l'autre côté de la table de la cuisine, Jean-Claude, le voisin, l'ami, qui a quelque chose à nous dire. Et comme vous l'avez cité à l'instant, l'absence de votre père, disparu alors que vous étiez enfant, et vous écrivez dans l'un des poèmes qui lui est consacré, qui s'appelle « Le cimetière ». Il neigeait et tu as dit ce jour-là, c'est tout noir, et j'ai su ce jour-là que tu connaissais le pays du poème. Et un petit peu avant, dans l'introduction, vous écrivez donc « Mon pays, c'est le pays de mes tombes ». C'est d'abord ça qui vous fait écrire, c'est-à-dire pour vous, le pays du poème, c'est d'abord le tombeau ? Ou aussi le tombeau ?
Aussi, oui, parce que franchement, ce serait trop. Quoi. Mais c'est évident, enfin, je trouve qu'on est dans un monde qui évacue cette question de la mort de façon scandaleuse. Et ignoble d'ailleurs, parce qu'en même temps ce monde tue à tour de bras, que ce soit avec des balles ou avec de l'argent. Et que profaner une tombe, pour moi, c'est tuer deux fois quelqu'un, je trouve. Parce que le tombeau, c'est simplement le pont entre l'ici et l'ailleurs. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas s'il y a quelque chose mais ou s'il n'y a rien. Enfin, moi, j'ai pas envie d'ailleurs, j'ai pas un rapport de police à faire sur l'autre monde. Moi, je fréquente mes morts de façon voilà normale, je dirais quoi. Et parce que c'est aussi notre aristocratie, si je puis dire, père, grand-père, etc., etc. Enfin, moi, je connais pas le nom de mon arrière-grand-père, mais on vaut bien les rois de France. Nous aussi, nous avons aussi notre royaume. Donc, et ça passe par ces petites pierres posées au sol comme ça. Il faut bien un lieu, quoi, quand même, par où passer pour passer de l'autre côté.
Du coup, écrire et à plus forte raison de la poésie, ce serait graver, parce que c'est un verbe qui revient.
Oui, en fait, c'est mon voisin qui dit ça, hein, parce que lui, c'est un homme de l'oralité absolue. Il dit, parce qu'il a, lui, il a pas quitté mon village de quatre maisons, donc il dit, si tu as besoin de savoir ce que tu faisais quand tu étais petit, tu as quand même téléphoné. Il dit, c'est gravé. Mais alors la mémoire, c'est étrange, parce que c'est à la fois, je pense que c'est à la fois une immense profondeur, et en même temps, c'est encombrant. Parce qu'on n'oublie pas, et parfois, il faut enlever deux ou trois personnes pour pouvoir faire entrer d'autres, quoi.
Frédéric Sérier, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous que de fréquenter les morts de manière normale, comme vient de le dire Yvon Le Maine ?
Ah, la question de la normalité de la fréquentation de la mort. Ça fait question, puisqu'il y a les morts évidemment physiques réelles, et puis la morbidité aussi de nos parcours. Alors Yvon Le Maine a parfaitement pointé la topique morbide, effective, hein, de l'audiovisuel contemporain. Voilà, moi je suis quand même du côté de la vie, du côté de la santé, ce qui ne m'empêche pas d'oublier, de penser à ce que j'ai perdu, veuillez m'excuser.
Alors, pour revenir à ce que Frédéric vient de dire sur la vie, il a raison. Hein. Mon premier livre s'appelait « Vie » quand même. Hein. Donc, quand je parle de la mort, c'est à cause de la vie, bien entendu. Hein. C'est quand même principal, il n'y a aucune complaisance de ma part. C'est simplement une ouverture, bizarrement, sur d'autres mondes quoi, que je pressens.
Yvon Le Maine, Une île en terre est le premier recueil de ce qui s'annonce comme étant une trilogie. Qu'est-ce que ce premier recueil, justement, porte des deux autres à venir ?
Alors, le premier livre, il est tout simplement, c'est le commencement. C'est Une île en terre, c'est donc, moi je suis né dans un petit hameau, donc, entouré de routes qui nous séparaient, parce que tout se faisait à pied, de bois. Donc on était comme dans une île, il y avait 4-5 maisons, et donc une île en terre. Il y a d'ailleurs un village près de Lannion qui s'appelle Belle-Île en terre. Puisqu'il y a Belle-Île en mer, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas Belle-Île en terre. Et je trouve que certains noms, d'ailleurs, sont comme des poèmes, quoi. Donc c'est le commencement, voilà, Une île en terre. C'est là que ça a commencé. Et donc, comme ce sont des poèmes, j'ai écrit des récits sur cette enfance-là, mais ce sont des poèmes, c'est-à-dire c'est une grande décantation. Et c'est ce qui reste après avoir décanté. Donc c'est le poème, c'est le pays de l'entre-deux un peu quand même, je pense. Hein. C'est ce qui est très dans le poème, ce qui est aussi important, c'est ce qu'on dit pas que ce qu'on dit quoi. On laisse du blanc comme ça autour des phrases pour pouvoir passer. Donc c'est le début. Et puis ce sont les lectures, ce que disait Frédéric tout à l'heure. Les lectures, c'est fondamental quoi. Moi, ça m'a sauvé la vie. Mon premier livre s'appelait David Croquette Cowboy, collection Rose.
Voilà. Lu sous les draps.
Non, mais moi, je suis le fils de lecteur et le petit-fils de lecteur. Ça a changé toute ma vie, toutes nos vies, parce que on est quatre frères et j'ai un petit frère qui écrit aussi et qui écrit plutôt bien, je trouve. Une grande sœur qui est linguiste en Espagne et ma sœur qui a un boulot assez important dans l'emploi, mais qui aussi utilise la langue, parce que alors une langue qui parfois est en mauvais état, mais une langue quand même quoi. Et ma maman aurait pu être actrice. Elle a fait du théâtre amateur pendant une dizaine d'années, sauf que la vie on a décidé autrement. Et elle savait raconter. Elle aurait été prosatrice elle plutôt. Hein, vraiment, elle avait un sens de la prose. Et mon père, comme il était souvent malade, on avait un grand jardin où pousser des légumes pour faire la soupe. Et il dit, si vous venez avec moi dans le jardin, je vous raconte des histoires. Donnant. Alors lui, les histoires qu'il nous racontait, c'était Napoléon à Sainte-Hélène, Bonaparte à Arcole, Louis Pasteur découvrant le vaccin de la rage, Archimède à Syracuse, enfin, etc. quoi. Voilà. Les histoires de l'histoire, quoi. Les héros, quoi. Voilà.
C'est lui qui vous a appris à dire, hein, parce que c'est par là, au fond, que vous avez commencé. Alors, vous avez évidemment écrit très tôt, oui. Mais vous avez commencé par dire
tout de suite
sur scène, oui. Y compris des poèmes qui n'étaient pas forcément les vôtres. Et
non, au début, je disais que les miens. Hein, et il y avait que moi qui comptais.
Et ça a changé.
Voilà, oui, vous voyez beaucoup. Oui.
Est-ce que c'est de lui que ça vient? Est-ce que c'est lui qui vous a appris à dire? Ou cette nécessité à dire, le fait de l'avoir entendu dire?
Alors c'est une histoire de voix tout ça. Hein, parce que moi, pour moi, les voix, c'est chez une femme ou un homme, c'est ce qui me bouleverse le plus, la voix. Je pourrais pas vivre avec quelqu'un dont j'aime pas la voix. C'est très. Moi j'écoute beaucoup de livres disques. Là j'écoute Le Père Goriot en ce moment. C'est bouleversant d'ailleurs ce livre. Et j'écoute beaucoup parce que je suis souvent sur la route pour aller d'un point à un autre pour lire des textes, quoi. Et mon père avait une voix, paraît-il, comme moi j'ai une voix plutôt douce, et donc il avait une voix comme la mienne. Enfin moi j'ai une voix, mais je me souviens pas de sa voix. Je me souviens de nos deux corps l'un contre l'autre, lui me racontant des histoires. C'est physique tout ça, hein, finalement. Et mes sœurs alors et ma mère ont des voix. Quand elles disent un secret, il faut aller à 3 kilomètres pour pas l'entendre, quoi. C'est un peu terrible, je trouve. Ce sont des voix de stentor, comme ça, des immenses voix, là, pleines de bruit et de, pas de fureur, mais de, voilà. Et après, alors, j'ai dit mes textes, la première fois sur scène en 72, il y avait à l'époque des gens comme Alan Stivell, Gilles Servat, qui sont toujours d'ailleurs très connus, mais qui étaient des vedettes à l'époque. C'était pendant des grèves. C'est moi, je militais, donc j'étais là aussi en tant que, pour aider les ouvriers à se défendre, etc. Et en même temps, comme j'écrivais, ils m'ont dit, ben vas-y, dis tes poèmes. Et j'ai dit des poèmes pendant 10 minutes, par cœur, hein. J'étais épuisé, mais les gens ont écouté. Et donc j'ai échangé, j'ai décidé de ce jour-là, c'était le 12 octobre 72, de ce que serait ma vie, quoi. Parce que pour moi, la poésie, c'est une, mais la prose aussi, hein, pas toujours, mais certaines proses sont aussi c'est aussi
assez. Je t'ai vu aussi. Et entendu lire, Yvon.
Oui, oui.
Et dans la charmante commune de Binic, il y a quelques années, oui. Un dimanche matin, dans un petit café, et c'était formidable.
Voilà. Les gens écoutent, quoi. Voilà. Bon, tant mieux pour moi, quoi.
On va vous écouter. Vous voulez bien nous faire lecture?
Alors, je vais lire donc 3 petits passages autour de ma mère qui est décédée en 2008 et dans mes bras, hein, ce qui est un immense privilège. On se regardait et c'est resté un grand mystère pour moi d'ailleurs, ce regard qui tout d'un coup s'éteint et ce corps qui s'arrête comme une vieille voiture et quelque chose qui s'en va, il traverse la vitre et va rejoindre les grandes lumières du monde, quoi. Donc, le premier texte, c'est le dernier voyage qu'elle a fait dans le jardin. C'est-à-dire le plus près du lit, quoi. On la tient par les épaules et par les yeux. Elle marche sur la terre une dernière fois. Elle passe par ici ou là, où elle a planté, il y a longtemps, des fleurs ici et là. On la tient par ses épaules. Elle se tient par les couleurs des hortensias et des roses qui sont rouges une dernière fois. On compte sur leurs pétales pour la ravir et la ravir de son fauteuil et de son lit. On s'arrête devant chaque nom qu'elle jette par-dessus le bord de ses lèvres une dernière fois. Elle parle comme un enfant, quand il fait bleu ou rose sur ses lèvres une première fois. Le second s'appelle l'armoire. Ce sont ses mains qui l'ont lavé, repassé, plié. Ses mains qui l'ont déposé sur la pile dans l'armoire. Ses mains qui ont refermé les portes de l'armoire et que l'on a refermées sur elles-mêmes et sur nous. Ses mains grattées à la porte des robes, des chemises et du linge de maison, même quand le linge et la maison avaient disparu de ses mains. Ses mains glissées à vide sur le drap ou son corps tourné à vide dans les draps. Ses mains que j'ai prises dans mes mains le jour où ses yeux se sont ouverts une dernière fois, au jour qui se ferma à 5 heures de l'après-midi, ce jour-là. Ce sont les mains de ma mère qui ont lavé, repassé, plié, hier, le mouchoir que je déplie aujourd'hui avec mes mains. Et là, ce que j'appelle la transcendance horizontale, c'est-à-dire la ressemblance. Ça s'appelle, le poème s'appelle « Le frère de maman ». Cette vieille dame, assise de l'autre côté de la table de la cuisine, il n'y avait pas de salle à manger à la maison, cette vieille dame ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ma mère. Elle était plus près de la mort que ma mère, elle était une belle possibilité pour ma mère. Elle était la 2e goutte d'eau avec 20 ans de plus. 20 ans qui auraient pu se tromper de chemin, 20 ans qui pourraient indiquer un chemin à ma mère. Cette vieille dame était ma mère en mieux. C'était il y a 20 ans. Avant-hier, ma mère était comme cette vieille dame en mieux. C'est ma mère, toujours et à jamais. Aujourd'hui, j'ai rencontré le frère de ma mère. Lui aussi, aujourd'hui, ressemble comme 2 gouttes d'eau à la vieille dame qui ressemblait à ma mère. Et de goutte d'eau, la vie remonte à sa source.
Merci. Vous l'avez dit tout à l'heure, Yvon Lemaine, ça fait 40 ans que vous lisez, que vous dites,
oui.
Que vous écrivez bien sûr, mais que vous dites aussi. Est-ce que vous lisez aujourd'hui comme vous lisiez il y a 40
quand
ans
j'étais...
Qu'est-ce qui a changé dans ce corps et cette voix qui dit en 40 ans, un de l'âge bien sûr, mais je pensais à la lecture.
Oui, oui. Alors, c'est une question vachement intéressante parce que le temps... C'est-à-dire, effectivement, il y a une phrase de Malrieux, qui est un poète que j'ai adoré, qui dit « Même le temps est accepté, ce provisoire des merveilles ». Donc, quand j'étais jeune, j'ai démarré à 19 ans, j'étais énervé. Enfin, je suis très un peu énervé en ce moment aussi, mais... Et donc, si on m'écoutait pas, c'était impossible, quoi. Donc, je disais mes poèmes très vite, ça fusait et ça pouvait durer 2-3 heures, quoi. Et les gens qui m'écoutaient à l'époque disaient « Oh là là, on va pas partir, sinon il va nous casser la gueule à la sortie. » Donc c'était très rock, très rap, hein, peut-être, je sais pas. Hein. Bon, en 72, il y avait pas beaucoup de gens qui disaient des textes sur scène, quoi. Et il y avait du monde, hein, parce que c'était pendant toutes les grèves, ça durait juste de 70 à 80, à peu près, 81, quoi. Le dernier grand meeting auquel j'ai participé, c'est contre les centrales nucléaires de Plogoff en 80, il y avait 100 000 personnes en face de moi. C'est incroyable, quoi. Et là, et les gens écoutaient, hein. Et je me suis dit, d'ailleurs, c'est assez dangereux, presque, de pouvoir se faire écouter par autant de monde, quoi. Et donc, si on m'écoutait pas, et maintenant, si on m'écoute pas, je me dis, ben, bon, c'est pas grave. Le ciel est bleu, quoi. Et en vieillissant, non, maintenant, je me dis, ma voix, c'est plus douce, elle est plus silencieuse, disons. En fait, c'est ça. Bizarrement, le but, un jour, je finirai par faire un récital de silence, quoi. Voilà, et je ne dirai rien, et puis on verra combien de temps les gens écoutent. Donc ce qui s'est passé, c'est ça, c'est le temps maintenant, je propose, voilà. Mais par contre, l'écriture, enfin je crois que il me semble que je tiens mon instrument, et donc c'est parce qu'aussi je tiens mon instrument, que j'ai moins besoin de dire écoutez-moi, sinon ça finira mal.
On en revient, Yvon Lemaine, à la période dite énervée. Donc, oui. Les rumeurs de Babel que vous publiez aux éditions, oui, Dialogue remontent justement à une autre source, hein, oui, par rapport à celle dont on vient de parler, où prend le relais, d'une certaine façon, du Nil en terre. Donc, Rennes, 68, étudiant. Votre tout premier poème écrit, oui, sur le balcon, oui, de la rue du Nivernais. Et qui était donc époque énervée, dites-vous, mais aussi époque où probablement vous envisagiez vos poèmes comme étant des poèmes dangereux ou des poèmes armés d'une certaine manière, oui, des poèmes de lutte, j'imagine. De quoi était fait ses tout premiers poèmes.
Alors, parce que j'étais à l'époque, je militais, donc j'avais l'impression que les flics allaient m'arrêter un soir sur deux. Donc un jour, j'ai caché mes manuscrits dans une sacoche d'une mobilette, en pensant que c'était les poèmes les plus dangereux de la Terre. Et je suis parti me cacher aux Horizons. C'était l'immeuble le plus riche de Rennes. Donc je dis, là, ils viendront pas. Et j'ai pris une gamelle avec ma mobilette, et tous mes poèmes se sont étalés sur le chantier. Puis ce sont des ouvriers qui m'ont aidé à les ramasser. Certains ont été perdus, plein de boue illisible. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que il y avait une phrase que j'ai écrite en 72, hein, quand même, qui dit « Je veux un langage manuel dont les hommes se serviront quand ils seront malades ». Franchement, je trouve que ça tient encore la route, cette phrase-là, aujourd'hui. Le monde est beaucoup plus dur aujourd'hui, d'ailleurs, que quand c'est beaucoup plus dur pour les jeunes aujourd'hui que d'être jeune quand moi j'étais jeune. Beaucoup plus dur, je trouve. Donc, c'était un cri, quoi. La poésie, c'est une énergie. C'est une pensée, c'est un corps, c'est un cœur, c'est une âme, c'est tout ça en même temps, mais incarné. On écrit avec son corps, hein, quand on a mal au dos, quand on a mal à la tête, ça marche moins bien. Quand on est bourré, c'est pas écrire, c'est un sport, quoi. C'est comme conduire une voiture à 200 à l'heure dans les virages. Vraiment, je pense, hein, parce que les phrases, des fois, elles sont à la limite de se casser la figure. Donc, ce qui a changé, c'est simplement une question d'énergie. Moi, je vis à fond les années que je vis, donc j'ai pas de nostalgie de ma jeunesse, par exemple, du tout. Je l'ai vécu à fond. Mais je sens là, quand j'ai été à Maurepas justement, où j'ai écrit un long poème, hein, fleuve aussi, avec beaucoup d'énergie, mais c'est l'énergie des autres que j'ai mis dans mon poème, quoi. C'est le poème des autres, là. Voilà. Ça, c'est l'avantage du temps. Je crois qu'en vieillissant, on s'oublie un peu plus et on écoute, on laisse rentrer les autres davantage dans nos poèmes, quoi, il me semble.
Alors justement, cette phrase, ce vers de 1972, Yvon Lemaine, que vous citiez à l'instant, oui. J'imagine que la voix que vous avez choisie ne l'aurait pas reniée, et cette voix, c'est celle-ci.
Qu'est-ce qu'on appelle la vraie vie ? Évidemment, il peut y avoir beaucoup de définitions d'expressions, et Rimbaud ne l'a pas défini autrement que par tout le contexte de sa poésie. Je crois, à la différence de Claudel, que Rimbaud excluait toute transcendance, et que les évocations du Christ, etc., sont des rappels de l'enfance et non pas une aspiration profonde. En tout cas, pour moi, la vraie vie est ici. Je l'ai dit dans un poème, Ma folie est de ce monde. La vraie vie se passe ici, sur Terre, et pour ma part, j'exclus toute transcendance. Enfin, soyons peut-être plus précis, j'exclus tout Dieu personnel, ce qui ne veut pas évidemment dire, loin de là, au contraire, tout sacré, car je crois que la poésie se confond d'une certaine mesure avec le sacré, mais un sacré sans Dieu, le sacré des rapports de l'homme et du monde, cette matière, je ne sais pas pourquoi, en général d'ailleurs, les poètes en particulier méprisent la matière, ce qui est quand même étonnant, puisque c'est la chose dont ils sont faits, et qu'il a quand même... C'est celle qui fait le regard même de la femme aimée. Donc, pourquoi mépriser cette chose ? Je ne pense pas que ce soit Dieu qui soit logé dans l'œil de la femme aimée. Donc, pour moi, n'est-ce pas, la vraie vie se passe sur Terre, c'est ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, évidemment, une vie dans une société autre. Et je suis marxiste, alors là, je me réfère au classique, pas la peine que je fasse définition. C'est-à-dire une société sans servitude, une société où l'homme aura son plein développement, et où société et individu marcheront de pair, où l'individu pourra développer ses capacités, où il pourra réaliser ses aspirations, et en somme, où tout travail sera devenu ce qu'est pour l'instant le poème au poète, où chaque homme sera un peu le poète de sa vie par son travail, ce que je vois la vraie vie. Ça, c'est sur le plan social. Maintenant, il y a d'autres choses plus mystérieuses qu'on ne sait pas, que moi j'essaie de deviner par ma poésie. Ce sont des rapports plus intimes avec le monde extérieur. Je crois que la poésie contribue beaucoup. Je pense qu'après avoir chanté les grandes catastrophes et les grands mouvements, etc., le rôle de la poésie sera de plus en plus dans une société meilleure, d'ailleurs, d'adapter l'homme à la vie quotidienne, de faire que pour l'homme, tout sera épique ou tragique en dehors des grandes catastrophes, que la poésie doit aider chaque homme à se trouver impliqué dans un grand mouvement et de faire que tout ce qui se passe dans sa journée, un volet qui s'ouvre, une pierre qui roule, un nuage qui passe, soit un événement d'ordre poétique aussi important que l'étaient les événements de la tragédie grecque. Enfin, je crois que c'est ça le rôle de la poésie, qui est de donner plus d'ampleur, de profondeur, enfin de tremblement, si l'on veut, aux événements de la vie quotidienne.
La voix de Guy Vic, le 29 juillet 1970, à Avignon. On était sur France Culture. Qu'est-ce que vous y entendez? Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de choses dans ce qu'il disait. Hein, il touchait vraiment à beaucoup de chants différents, mais c'est la voix que vous avez choisie, Yvon Lemay. Oui, qu'est-ce que vous y entendez, même dans cette voix, d'ailleurs, vous qui êtes sensible aux voix, au-delà même de ce qu'il dit ou de ce qu'il a pu écrire?
Ça fait beaucoup de bien d'entendre ça, hein, je trouve.
1970, hein, je le rappelle.
Oui, c'est incroyable quand même, il y a quelque chose qui ne vieillit pas là-dedans. Hein. Ensuite,
quelques
si
défaites
le monde,
depuis, par rapport
bien
à
sûr,
ce qu'il
mais
dit.
Ça, bon, on en aura d'autres, on aura des victoires, bon... Et Eugène, qui veut dire, c'est étrange, Eugène, ça veut dire le bien-né. Hein, et c'est le seul poète en France, je crois, qui signe ses livres sans mettre son prénom, Guy Vic, parce qu'en fait, il détestait sa maman. C'est quand même une souffrance de base, ça. Et il a dit, une fois dans la Libye, on lui avait demandé ce que vous croyez au paradis. Il avait dit oui, pourvu que ma mère n'y soit pas. Enfin, je m'en fous, pourvu que ma mère n'y soit pas. Voilà. Et donc, ce que j'entends dans cette voix, c'est une profondeur incroyable. Et d'ailleurs, le premier livre d'Eugène s'appelle Terraqué. Il parle des monstres qui sont très bons. Enfin, c'est dans la caverne, quoi. Hein. Ça commence comme ça, dans la profondeur du ventre et du sol. Et les derniers livres s'appellent Le Chant, Le Possible Futur. Enfin, alors quand lui il parle de transcendance, je connais son point de vue là-dessus, bien sûr. Mais cela dit, dans sa poésie, il a tellement travaillé la matière de la langue pour que la lumière passe au travers. Et d'une certaine manière, il y a une sorte quand même de dépassement en tous les cas, et une conséquence imprévisible qu'on a en écoutant ces poèmes en nous, quoi, voilà. Mais c'est bouleversant, hein, je trouve, ce qu'il dit, ce qu'il propose d'enchanter la vie, et en parlant de rien, c'est-à-dire d'ouvrir un volet et de dire tiens, il fait jour. Franchement, ça coûte pas cher et ce serait pas mal d'y faire attention, quoi. Je suis très content du passage que vous avez choisi parmi les centaines de passages qu'il doit y avoir ici à France Culture, quoi.
Tu es un peu frère de poèmes avec Guy Vic.
Oui, oui, on est très différents, hein, parce que moi je l'ai connu en 75 et la première chose qu'il m'a dit, est-ce que tu as la sécu? Donc c'est concret. Et il m'a dédié un poème en 86 où il dit, je ne sais pas que dire à ce torrent, c'est moi donc, qui voudrait dialoguer, il n'y a rien en moi qui ressemble au torrent, le dialogue viendra quand il sera rivière.
Frédéric voilà. Thierrier, vous, qu'est-ce que vous avez entendu
Guy Vic,
dans cet extrait?
Ça me fait très plaisir de l'entendre. Ouais. Voilà, c'est une voix très très émouvante, c'est une voix très simple. C'est une voix qui désigne l'essentiel de ce qui est. Et c'est une voix qui prend en compte la simplicité, la beauté et la bonté aussi, la tendresse des rapports minimums entre les hommes. Voilà, alors ils vont citer Terracoué, voilà, que j'avais lu bien sûr il y a très très longtemps. Lorsque j'étais étudiant, voilà, je découvre un petit peu les poètes contemporains, c'est une grande, 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 grande voix de la poésie. Et comment dire, il y a des accents de Guy Vic chez Yvon Le Maine. Voilà, pourquoi tu t'en distingues
tant que ça? Non, parce que je suis très respectueux de mes vieux amis.
Ta conception de la poésie n'est pas fondamentalement...
Non, absolument
éloigné
pas. Non. J'ai appris beaucoup de lui d'ailleurs parce que quand il m'a connu la première fois, on lui avait demandé ce qu'il pensait de mes poèmes. Il disait, ils sont bavards, parce que j'étais long, etc. Mais long, moins pas maîtrisé, disons, hein, comme aujourd'hui, par exemple. Mais c'est un poète, il a un don, c'est un poète. Et moi, je disais qu'il était trop bref. Ce qui est une bêtise, en fait, la brièveté de sa poésie. Alors, ce qu'il y a de particulier chez lui, c'est qu'il a trouvé une langue avec Terraqué, publié en 43. Et après, il n'a pas bougé de cette langue. Il a simplement travaillé la langue, cette langue qu'il avait découverte au maximum, quoi. En lui donnant le maximum d'étendue lumineuse, je dirais, enchantée, sans exclure les tragédies, hein, puisqu'il a écrit un poème fantastique sur les charniers de la guerre. C'est un livre qui a été illustré par Picasso. Où il dit il faudrait s'allonger parmi eux, ne serait-ce que pour l'hommage, quoi. Voilà. Bon. Donc il n'a pas exclu ça. Il sait de quoi il parle, hein, quand il parle de la tragédie, de l'histoire. Il le sait très bien. Mais pour moi, il y avait trois hommes, hein, qui ont compté quand j'étais jeune. C'est Guy Vic, Xavier Gral, qui était le contraire de Guy Vic, hein, à tous les points de vue, et Jean Malrieux, qui aurait pu être un peu au milieu de la route, quoi.
Qu'est-ce que vous appelez le contraire?
Xavier, d'abord, ils avaient la même maladie tous les deux, un emphysème. Quand Xavier, on lui a dit, si vous continuez à fumer, c'est 20 ans, dans 20 ans, ça sera... Voilà, il a fumé de plus belle. Quand on a dit à Eugène, vous avez un emphysème, il a arrêté de fumer. Donc, voilà. Et ils ont un rapport au temps tout à fait inverse. Eugène était, sa grande puissance, c'est un sens du présent.
Vous racontez d'ailleurs dans les rumeurs de Babel, vous rapportez un soir d'hommage à Rennes en 82 pour la disparition, un an après la disparition de Xavier Graal. Ouais. Et vous écrivez, cette nuit-là fut un beau jour et ce beau jour confirma mon choix de suivre le chemin du poème par la voix, par la main, dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que c'est un choix qui avait besoin d'être confirmé? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté?
Mais j'ai eu peur, bien sûr. J'ai eu peur vraiment violemment, même pendant 7 ans, tous les matins, tous les soirs, de finir entre guillemets mal. Mais en même temps, ce que je trouve dans ma vie, c'est en mélangeant les deux, la scène et le livre, j'ai trouvé vraiment. Enfin, j'aime ma vie, quoi. Je veux dire, j'ai trouvé les deux forces de la vie, ce qui est la présence et la scène. Quand on parle de quelqu'un qui a une présence, ça veut dire il faut qu'il soit là à ce moment-là. Et le livre, c'est il est là un peu après nous, peut-être, hein, et en tous les cas sans qu'on soit là. Donc c'est comme un voyage dans le temps, dans l'espace, et la présence. Donc c'est les deux forces qui font une incarnation, quoi.
Et moi j'aime beaucoup, si tu veux, quelque part le courage de ta simplicité, dont à mon avis tu te rends même pas compte, mais qui parle du crâne de Saint-Yves aujourd'hui dans un poème. Voilà, bah Yvon Le Maine. Voilà. La femme qui priait le crâne de Saint-Yves avait les yeux si fermés et les lèvres si ouvertes. La femme qui priait le crâne de Saint-Yves avait la peau si blanche et les mots si tendus, comme une prière qui dévore sa cible, l'esprit du saint.
Écoute, merci. Hein.
Mais non, mais pourquoi tu me remercies? J'ai souri, moi, en te lisant. Extraordinaire, d'autant plus que mon éditeur s'appelle Yves Pagès. J'ai deux éditeurs, Jeanne Guyon et Yves Pagès, voilà. Et Yves Pagès, formidable, donc je pense souvent à lui. Alors lui, il est parisien, voilà. Et Saint-Yves, formidable.
Saint-Yves
de Kermartin.
Oui, c'est le patron des avocats, quand même.
Du monde entier.
Du monde entier. Oui, dans le pardon a été inauguré, par exemple, par Jean XXIII, quand il était cardinal.
Alors, on ne va pas nécessairement faire une émission Poésie et Bretagne, hein, mais Frédéric Sirier, vous avez, je crois, une sorte de petite théorie sur les poètes et la Bretagne, hein, en tout cas sur la concentration notable de poètes en Bretagne.
Ou pas, j'en sais rien. L'orgie de lumière dans le ciel, peut-être.
Je ne sais pas.
Bah, déjà, il y a une tradition de fête orale très forte. En Bretagne, c'est une première chose. Je ne manquerai pas, je pense, de respect aux écrivains bretons en disant qu'il y a moins de grands romanciers que de grands poètes en Bretagne. Moi, je suis davantage du côté du récit. Les Bretons, les gens de l'Ouest, de manière générale, ont produit essentiellement de grands cinglés, que j'aime beaucoup, moi, Villiers de l'Isle-Adam, Alfred Jarry, qui a un peu traîné ses guêtres entre Laval, Rennes et Saint-Brieuc. Voilà, maintenant, je trouve les grands... Comment dire ça, les grands auteurs littéraires bretons sont quand même davantage, je trouve, les poètes. Voilà, c'est comme ça.
Alors, puisqu'on en est à la Bretagne et à la poésie, on écoute une voix, vous allez me dire qu'elle n'est pas bretonne mais brestoise, qu'il n'est pas breton mais officier de marine, donc français, et cette voix c'est celle-ci, lue par Sylvia Montfort.
Or, Théaé, comme l'île avait faim, réunit les hommes de sa terre, les hommes maigres et desséchés, les femmes aux mamelles taries, et les enfants pleurant pour manger. Théaé leur dit, je vais monter dans la vallée. Je dirai vers Téphatu le maître des parlers puissants. Allons ensemble dans la vallée. Ils le suivirent. Les torrents avaient soif. Et la grande Punaru descendait goutte à goutte dans son creux de cailloux secs. Derrière eux venaient des cochons maigres, réservés pour la fin des derniers jours. Comme ils arrivaient au mont Tamanu, qui est le ventre de l'île, Théaé leur dit, creusez dans la terre un trou pour y plonger un grand arbre. Et Théaé descendit dans ce trou. Il invoqua Téphatu, le maître, avec des parlers suppliants. Il se tenait immobile, bras levés, jambes droites. Voici que le torse nu se durcit autant qu'un gros arbre. La peau devint écorce rude, les pieds divisés s'enracinèrent dans le sol ingrat. Plus que tout homme, le vieillard grandissait. Ses deux bras devinrent 10 bras, puis 20, puis 100, puis des centaines. Pour ses mains qui étaient 1000, c'étaient 1000 feuilles palmées offrant aux affamés de beaux fruits inconnus. Les gens de Tahiti s'en rassasièrent, disant « Cela est bon ». Car cet arbre fut le Uru, qui depuis lors nourrit la grande île et la presqu'île et les terres au-dessous de l'horizon.
La voix de Sylvia Monfort, légende de Tahiti, donc lue par Sylvia Monfort le 14 août 1958, c'était d'un poème de tous les temps. Une légende donc rapportée par Victor Segalène dans Les Immémoriaux. En quoi est-ce que la langue ou la figure brestoise donc, et militaire de Segalène vous importe, Frédéric Sirier?
J'aime beaucoup son élégance. Son élégance, sa simplicité, sa précision. Il va à l'essentiel. Et il y a une charge très très physique qui est toujours présente chez lui, mais qui en même temps est toujours, maîtrisée. Il n'est jamais dans l'outrance. Et Dieu sait si j'aime les écrivains de l'excès. Voilà. Donc Segalène a un côté un poil... Il est toujours un peu dans la maîtrise, mais ça me plaît beaucoup. Voilà. C'est un poète que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Alors effectivement, il était brestois, officier de marine. C'est aussi clin d'œil peut-être un petit peu pour moi dans mes mythologies personnelles à ma famille, puisqu'il y avait beaucoup de gens de mer. Mais voilà. Et puis grand voyageur, à une période où il n'était pas facile de voyager, il convient de le rappeler, et où l'ailleurs n'avait peut-être pas tout à fait le même sens que celui qu'on peut éventuellement lui donner aujourd'hui, où l'ailleurs fait souvent figure de poubelle. Disons les choses, politiquement, peut-être.
Bon, on se lève et on va tout simplement se dépoussiérer, enlever toutes les petites poussières.
Avec la main, inutile de chercher une balayette.
Tout ce qu'on a apporté de l'extérieur, les scories qui nous gâchent un peu la vie. Voilà, on nettoie les fins de mois difficiles. On oublie le marasme affectif de sa vie conjugale.
On pense pas trop au week-end de Pâques qui arrive.
On supprime tous les petits renoncements qui nous servent de vie. On n'oublie pas les yeux, délicatement, pour ôter tout ce qu'on aurait préféré ne pas voir. Et bien sûr, la langue, pour enlever tout ce qu'on aurait mieux fait ne pas dire. Vous êtes bien propre? Alors on se reçoit.
Scène de genre et genre de développement personnel avec un extrait de « Quand je pense qu'on va vieillir ensemble » signé des Chiens de Navarre. Je ne sais pas si vous aviez vu cette pièce-là.
Je connais cette troupe, mais je n'ai pas vu cette pièce.
Vous auriez pu. Du théâtre, donc, pour entrer dans le vif du sujet, Frédéric Sirier. Si votre premier roman, donc « Des néons sous les mers », amarrait un bordel autogéré dans un sous-marin à Paimpol, en tout cas pas loin de Paimpol. Le deuxième, lui, se déroulait à Paris. Le troisième, celui qui vient de paraître aux éditions Verticales, commence... et s'achève d'ailleurs aussi, sur l'île du Levant, au large d'Hyères, dans le Var. Une île qui se partage entre une plage naturiste, enfin en tout cas un espace naturiste, et un territoire militaire, ça ne s'invente pas. Titre du roman « Je suis capable de tout », et on reviendra sur ce titre, soit l'histoire de Julie et de sa fille adolescente, bronzant nue donc, à Héliopolis, donc sur l'île du Levant, l'une à côté de l'autre sur un transat, la fille occupée à lire entre deux textos des mangas japonais d'un genre pour le moins trouble, et la mère occupée à lire un best-seller de développement personnel, ce qui fait du lecteur un double lecteur, hein, puisque tantôt il va lire par-dessus l'épaule des héroïnes, donc lire ce qu'elles sont en train de lire, plus ou moins, tantôt lisant leur propre histoire. Deux portraits de lectrices, donc, pourquoi fallait-il que face à la mère et à ces lectures donc, de développement personnel, dont on va évidemment parler, il y ait les mangas de la fille et les yayoi en particulier? Qu'est-ce qui se jouait justement dans cet assemblage de lectures?
L'assemblage, de fait, je l'ai découvert en le... Comment on va dire ça, en le pratiquant, voilà, d'une certaine manière, au sens tout très simple, où quand j'écris, quand je commence à écrire, je sais pas du tout où je vais. Voilà, donc j'ai commencé par une méthode de développement personnel, j'ai vite vu que, bon, le pastiche, fallait aller un petit peu plus loin, donc j'ai inventé un coach, en lui donnant une extraction sociale un peu spécifique. Après, il fallait que je trouve une lectrice. Mais je me suis dit, le va-et-vient entre une lectrice de développement personnel et son texte, fut-il écrit par un fou, on aurait peut-être un petit peu marre. Donc j'ai voulu lui inventer une fille qui, elle, serait dans le trouble de l'expérience de la lecture à l'âge de l'adolescence. Qu'est-ce qu'on lit quand on est adolescent? Qu'est-ce que ça nous fait? Pourquoi on lit? Qu'est-ce qu'on cherche?
Qu'est-ce qu'on n'aime pas?
Qu'est-ce qu'on n'aime pas qu'on n'a pas envie de lire? Par exemple, ce que lisent les parents? Par exemple, ce que lit la mère? Tout ça. Donc voilà, donc ça a donné insidieusement une relation mère-fille qui a un peu parlé, peut-être à mon insu, si elle a parlé et fonctionné dans le texte.
La langue de ce coach, donc, si fou soit-il, hein, on ne va pas tout révéler. Paul Béranger est évidemment très présente dans le livre, hein, puisqu'on lit son livre en même temps que votre personnage. Son livre, qui est un livre de développement personnel, mais dans lequel il raconte lui-même sa propre histoire, avec même des formules en gras, et c'est peu de le dire qu'elles sont grasses. Pour les néons, vous aviez lu des gens comme Schwab, comme Trackle, des écrivains de bordel. Cette fois, j'imagine que vous avez lu divers ouvrages du genre, un petit peu l'éveil de votre puissance intérieure, ou je ne sais quoi, ou 59 secondes pour prendre les bonnes décisions, que vous avez lu des livres sur le phénomène du développement. Qu'est-ce que ça vous a demandé que d'écrire dans cette langue-là? C'est-à-dire quelles en étaient les structures, les syntaxes, les rhétoriques qu'il fallait respecter et éventuellement pousser dans leur retranchement, parce que c'est évidemment ce que vous faites.
Eh bien, effectivement, j'ai lu quelques livres de développement personnel, mais finalement pas tant que ça. J'ai regardé un certain nombre de vidéos où là, on bascule finalement dans la performance orale de la prédication.
Et c'est beaucoup plus agressive. Hein.
Extrêmement agressive, voilà. Et on plaint un petit peu les gens qui prennent ça au pied de la lettre et qui malheureusement intériorisent ce type de message. Donc je pense que le territoire est assez bien balisé. Et c'est pas un hasard si le théâtre avec les chiens de Navarre, on l'a entendu tout à l'heure, s'en est emparé et a repéré en quelque sorte les passages obligés, voilà, l'éveil intérieur, le potentiel individuel, etc. Voilà. Donc c'est effectivement une somme de clichés, mais à mon avis qui mérite quand même un petit éclaircissement. On parle souvent de performance. Pour le développement personnel, à mon avis, on est plus sur un mode trivial, dans quelque chose de spinoziste. Voilà. Avec quelque chose qui désigne finalement la déité en chacun. Quelque chose comme ça. On est tous des dieux. Quelque chose comme ça. Voilà. Hors transcendance. Et je pense que cette littérature est très efficace aujourd'hui en France, qui est un pays qui vit un peu douloureusement sa sortie du christianisme, quand bien même la France est fiennée.
Vous pensez que ce type de littérature ou de paralittérature, oui, je sais pas comment on peut appeler ça, serait au fond le symptôme justement de cette négociation de la sortie religieux?
J'en suis absolument convaincu. Voilà. Alors moi j'ai essayé de...
Si tenter qu'il y ait une sortie du religieux.
Absolument. Voilà, ça je suis pour le coup assez d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'il y en ait, mais je pense effectivement que ce type de littérature s'insinue dans les failles béantes, voilà, laissées par la douloureuse sortie du christianisme et la violence de la réalité, tout simplement, et la violence pour le coup sociale qui s'abat sur les gens ordinaires. C'est pour ça finalement il y a une sorte de magie dans ce type de livre, de discours qui fonctionne très très bien avec le capitalisme. Voilà, il y a une sorte de logique finalement entrepreneuriale. De l'esprit, quelque chose qui serait peut-être un peu de cet ordre.
Est-ce qu'il y a un plaisir à écrire dans cette langue-là, ou tout du moins au moins un plaisir au pastiche?
Il y a un plaisir qui est un peu pervers, parce qu'on est dans l'implicite, vous voyez. C'est-à-dire que quand on écrit, quand on parodie, quand on pastiche ce type de texte, on sait parfaitement que le lecteur aura une double lecture, du moins pour les lecteurs qui sont un petit peu éclairés, on va dire ça comme ça. Voilà. Après le pastiche, à un moment, il faut aussi en sortir. Alors moi, j'ai essayé de proposer un peu autre chose et de radicaliser ce que peut proposer un coach. Vous savez, quand on est enfant, on fait souvent ces blagues, quel est le comble, je sais pas, moi, de l'avarice, etc. Voilà. Je me suis posé une question très très simple, quel serait le comble du coaching mental contemporain, et quel pourrait être l'argument commercial absolu d'un coach mental. Et donc je développe l'idée suivante, eh ben, le coach se vanterait d'avoir coaché la mort en personne. Voilà. Voilà.
Pas seulement coacher, mais je n'en dirai pas plus.
Vous n'en direz pas plus, Manu, voilà. Alors pour la petite histoire, comme on dit, j'avais discuté avec une copine psychanalyste et je lui avais dit, écoute, moi j'ai envie d'écrire sur le développement personnel. C'est quand même un phénomène assez sidérant. Je vais imaginer qu'un coach coache la mort. Et elle m'a dit, formidable ! Un coach qui coache la mort, mais extraordinaire ! Elle a eu un petit blanc et elle m'a dit, tu sais, les seuls qui coachent vraiment la mort, ce sont les anorexiques.
On en parlait, hein, la langue, cette langue de Paul Béranger, donc, qui est coach de puissants, disons, pour faire court, hein, donc auteur de Mental Coaching, Ma méthode, mes succès, qui est un ancien champion de sprint, maître donc de la méthode. Mais il y a donc aussi la langue des mangas, lue par la jeune fille, il y a celle du narrateur, et puis il y a même quelques exercices de style. Je pense notamment à une mémorable séquence d'érotisme soft entre l'héroïne et Giacomo, qui est une sorte de playboy italien rencontré sur Internet. Ça n'est pas la première fois. Dans Les Néons sous les mers, votre premier roman, vous aviez fabriqué aussi une forme de langue sur le mode du carnet ethnographique. Qu'est-ce que vous trouvez à écrire, comme vous le faites, et là, pour le coup, c'est presque littéral, dans la langue des autres?
Ben, ça peut vouloir dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc et que j'observe beaucoup la langue des autres, déjà, ce qui est pas mal. Ça peut vouloir dire aussi, finalement, que j'ai pas de langue à moi, ou alors que ma langue, c'est celle qui est la somme de toutes celles que je peux entendre et charrier, et puis métamorphoser, voilà, et m'approprier, voilà. Je crois que j'aime bien, tout simplement, m'approprier la langue des autres. Moi, j'aime, je suis un amateur de texte, hein, au sens où, quand j'étais un peu plus jeune, peut-être, j'aimais lire le journal, voilà, la lecture du journal me procurait un plaisir infini. Ce que je veux dire par là, c'est que, quand j'ai fait vraiment mon apprentissage de lecteur, j'étais pas dans une hiérarchie, si vous voulez, des styles et des formes, voilà, je buvais un petit peu tout ce que je prenais, voilà. Alors, la métaphore, si vous voulez, de mon livre Des Néons sous la mer, c'est que le plus grand bordel du monde, c'est la langue. Mais ça, je le crois profondément. Hein. Tout le monde y vient, tout le monde y passe et on y jouit. Voilà.
Oui, bordel au sens de lupanard. Hein,
au sens de lupanard, voilà. Oh. Au sens aussi, éventuellement, un peu de mélange et d'échange. Voilà. Effectivement, j'aime bien peut-être prendre la force que je trouve dans la langue de gens qu'éventuellement je peux aussi ne pas respecter.
Yvon Lemaine, je vous voyais gribouillé, je ne sais pas, ça n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on est en train de se dire, mais peut-être que vous vouliez intervenir.
Ce qu'a dit Frédéric, c'est très intéressant. Sur la langue des autres m'intéresse parce que je n'ai peut-être pas de langue. Bon, je pense qu'un écrivain, forcément, sinon il ferait autre chose. Donc, et alors qu'en poésie, effectivement, on est un peu obsédé par sa langue. Hein. Et moi, j'ai écrit deux romans, par exemple, et je suis moins à l'aise. En tant que poète, j'ai élargi mon monde par la curiosité, au maximum, hein, en lisant tous les autres poètes que j'ai pu lire, etc. Mais je sens qu'il y a j'ai un petit problème de ce point de vue-là, et que peut-être que dans le multi-instrumentiste que tu es, quoi, ce serait peut-être ça la question de la langue, hein, sa langue à soi, sur le fil tendu de sa langue à soi, quoi. C'est très intéressant les deux, parce que nous, on est dans ma langue à moi et la langue des autres, et je pense que les poètes ont à gagner d'aller visiter le roman, et que le roman a gagné à visiter le poème, quoi, tout à fait, il me semble.
Est-ce que vous voulez bien nous faire lecture, Frédéric Sirier ?
Avec plaisir. Sur la partie est du Levant, les résidents permanents ou temporaires de la cité naturiste d'Héliopolis commençaient à affluer. À l'entrée de la plage des Sirènes, un grand panneau de bois en rappelait l'esprit. Héliopolis doit être non pas une ville ou un village, non pas une agglomération de maisons ou de villas luxueuses avec ses garages, ses casinos, ses théâtres, ses usines, ses maisons de commerce, mais une simple cité rustique où les amateurs d'air et de soleil viendront, dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé plus robuste. 1932. Julie ne regrettait pas sa destination. Les conditions étaient optimales pour profiter pleinement du soleil et de la lecture de soi en cet endroit merveilleux du globe. Autour d'elle, au Sun Beach Club, les transats n'étaient encore occupés qu'au tiers, sur une centaine disponibles. Plus loin, les vacanciers s'installaient, planter leurs parasols, s'enduisaient de crème et bien vite gagnaient la mer où ils entraient directement, comme à leur insu, avant de sortir et de sécher leur corps miroitant sur des serviettes vastes comme des draps. Elle s'arrêta sur une page intitulée « L'escalier de la réussite », qui livrait les concepts clés du plan d'action pour devenir champion ou championne mentale. Elle gravit les mots un par un, en prenant son temps, vérifiant qu'elle était en mesure d'en franchir chaque marche conceptuelle, comme un moment de vérité spécifique. Les plus rudes escaliers qu'elle ait eu à monter de sa vie étaient ceux de Notre-Dame de Paris, jusqu'aux cloches, et surtout les 11 674 marches conduisant au sommet du Nissen, en Suisse, le plus grand escalier du monde. Mais si elle y réfléchissait bien, l'escalier de la réussite était plus redoutable encore. Humilité, recadrage, objectif, confiance, émotion, succès. Elle s'arrêta sur chaque mot, en validant la pertinence pour elle-même, à partir de ce qu'elle savait d'elle-même. Puis elle répéta chaque vocable, savourant ses échos intimes, ses suggestions narcissiques, légitimes, estivales, insulaires.
Merci. Ce qui frappe, notamment à la lecture du livre Frédéric Sérier, c'est évidemment le regard critique, ça va sans dire, que vous pouvez porter sur ce type de littérature. Alors qu'à contrario, le regard que vous portez sur vos personnages n'est pas du tout le même que celui que vous portez sur ceux qu'ils sont en train de lire. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'empathie, d'une certaine façon, même si elle est un peu gourde quand même, cette Julie. Mais il y a une forme d'empathie pour ce personnage-là, pour l'adolescente, pour sa fille aussi. Comme il y a une forme d'empathie dans vos précédents romans, je pense à Mélo en particulier, à ce personnage de déboueur sapeur. Je pense à cette jeune fille chinoise sur Roller qui vendait des briquets, des petites babioles dans les rues de Paris. Je pense à chacun des personnages que vous abordez. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'écrire pour vous, c'est-à-dire que d'écrire sous cette forme comme ça, empathique à l'égard de vos personnages ?
C'est à mon insu. Voilà. Dans ce livre, pourtant, j'ai le sentiment d'être cruel. Et je ne ménage tout de même pas mon héroïne, Julie, qui va se faire abuser par un livre avant de se faire abuser par un homme.
Multi-abusé.
Multi-abusé. Voilà. Après, je la ramène...
Ça ne pouvait être qu'une femme ?
Ça aurait pu être un homme, mais je ne ménage pas non plus le personnel masculin dans mon roman. Donc, je ne crois pas qu'il faille diviser sur un mode sexuel, hein, finalement, l'humanité que je mets... que je mets en scène. Voilà, j'ai pas le sentiment que les hommes soient davantage, on va dire ça, en beauté ou en grâce.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manou Farine.
Frédéric Sérier, le sapeur, hein, dans votre précédent roman, Mélo, hein, qui était donc un triptyque, trois portraits, qui sort là, qui vient de sortir en folio, finit par embaucher un jeune blanc, un jeune Mazarin, simplement pour le sublimer et lui tenir une ombrelle en permanence au-dessus de la tête, qui s'appelle Frédéric, ce personnage, et dans Je suis capable de tout, vous apparaissez à nouveau, à demi, un peu comme Hitchcock, je ne sais pas si c'est ça, en lettres effacées sur une pierre tombale hein, sur laquelle vos personnages vont venir copuler. Puisque sur cette tombe, on peut lire, alors c'est vraiment très visuel, donc je ne suis pas sûre que ce soit utile que je le dise à la radio, mais c'est F-E-Eric-C.Rier-R-I-E-Z.
Qui donnerait une sorte d'épitaphe un peu étrange, fait Eric crier, voilà. Donc c'est une inscription funéraire et en même temps qu'une épitaphe et pourquoi pas non pas un manifeste mais un art poétique, voilà, quelque chose comme l'hystérisation de notre condition peut-être aberrante.
Le jeu de je suis capable de tout, c'est aussi le vôtre,
bon, qui est un titre assez drôle. Tous mes personnages et comme l'a bien dit Bertrand Leclerc dans Le Monde, Madame Bovary c'est lui. Donc je suis aussi peut-être un petit peu
Vous va cette idée de voir ce personnage comme une Emma Bovary du 2016 hein.
Alors le côté flaubertien peut-être oui, mais peut-être davantage du côté Bouvard et Pécuchet. J'étais un peu étonné en fait qu'on rattache à Madame Bovary, mais en même temps c'est assez clair aussi. Donc oui, je l'accepte facilement. Puis ça me flatte.
Il valait mieux être Emma Bovary au 19e plutôt qu'en 2016.
On retrouve quand même les mêmes chagrins. J'ai une amie qui m'a demandé si je ne m'étais pas inspiré d'elle pour écrire ce livre. Donc ce qui m'a un petit peu peiné, pour le coup. Voilà, d'autant plus que c'est une femme remarquable et qui, elle, je pense, a la force pour ne pas se faire abuser comme ça par les, par les hommes, donc j'étais assez étonné de ça. Donc j'ai dû peut-être insidieusement toucher quelque chose comme une sensibilité d'époque.
Je voulais juste en profiter avant de terminer cette émission pour entendre une musique qui a à faire avec ce que vous avez écrit précédemment, donc dans Mélo, puisqu'on parlait des sapeurs, en l'occurrence des sapeurs congolais, sapeurs auxquels vous dédié d'ailleurs, ou dédicacé.
Mais moi je me sens, dans Mélo, j'étais vraiment un sapeur littéraire, voilà, donc Papa Wemba vient de mourir, voilà, c'était le pape de la SAP, c'était vraiment le guide spirituel pour tout un courant culturel, c'est très, comment dire, important de lui rendre hommage. On voit des vidéos où après avoir fait un peu de prison, là, en région parisienne, il arrive à Château-Rouge, il est à Paris, dans le quartier de Château-Rouge, le quartier des sapeurs, où il est accueilli vraiment comme un président, voilà, c'est le président, c'était le président de la République de la SAP, voilà, donc le monde des sapeurs est en deuil. La SAP, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Je suis allé en Chine récemment et, comment on va dire, pour honorer la francophonie, la diplomatie française a eu la bonne idée d'inviter des sapeurs présents en Chine et c'était une idée remarquable.
Frédéric Sirier, qu'est-ce que vous étiez allé chercher dans ce milieu-là, celui de la SAP, au moment de Mélo, celui de la SAP et des sapeurs?
Une forme d'altérité absolue et en même temps de partage total, à savoir que les sapeurs congolais sont des dandys prolétariens avec lesquels je partage beaucoup de choses, notamment le sens du baroque, c'est-à-dire du vertige, de l'inquiétude, de l'infini. Et voilà, j'admire les sapeurs. Voilà. Vive la SAP!
Est-ce que c'était aussi un motif politique, hein, pour vous ?
D'une certaine manière, oui, puisque qu'on soit clair, bon, après, il faudrait un peu parler de l'histoire de la SAP, mais les sapeurs ont longtemps été des parias. Maintenant, comme on est évidemment en plein spectaculaire intégré, les sapeurs sont souvent des cautions pour les hommes politiques en Afrique, voilà. Mais leur puissance, ce sont des exhibitionnistes habillés, finalement, voilà. Et ça me touche beaucoup, voilà. Et c'est une esthétique extrêmement vivante en même temps que morbide, puisqu'on a été un peu morbide peut-être un petit peu ce soir, et surtout c'est une esthétique, je trouve, qui capte merveilleusement l'époque et qui va très loin. Par exemple, les sapeurs de Kinshasa peuvent se promener avec en exhibant l'étiquette des vêtements de marque qu'ils ont achetés. Voilà. Donc on va au bout du processus marchand. Il n'est pas simple, il n'est pas refoulé. Vous savez, l'esthétique bourgeoise, on cache ce qu'on a payé. Voilà. Non, là, c'est pas ça. Là, on va au bout du processus. Voilà. Il y a eu des très très belles photos de sapeurs, là, récemment, au palais de Tokyo. On voyait des sapeurs qui dansaient sur des tombes. Voilà. Donc ça permettra peut-être de faire la liaison entre Yvon Le Maine, Frédéric Sirier, avec un cimetière aussi, dont je parle, sur l'île du Levant, et qui, lui, malheureusement, accueille des enfants. Il y avait un bagne pour enfants, en fait, sur l'île du Levant, entre 1860 et 1880, et une centaine d'enfants sont morts, hein, là-bas. Voilà. Alors, dansons sur les tombes, dansons avec les sapeurs et pensons à Papa Wemba.
Merci, merci à tous les deux, Yvon Le Maine et Frédéric Sirier. C'est la fin de cette émission, ou presque, je vous laisse la prolonger entre vous et sans moi. Alors, bonne nuit à vous.
Alors Yvon, comment on se retrouve, hein?
Oui.
Tu sais que moi j'avais pris un café avec toi, j'avais 16 ou 17 ans à Lannion. Mais tu t'en souviens pas, je t'avais rencontré et puis on avait bavardé et puis voilà.
C'est vrai?
Oui.
Et j'avais comment tu avais fait? Tu m'avais parlé ou?
Eh ben j'avais dû lire quelques-uns de tes ouvrages. Je t'avais parlé bien sûr. Oui. Et puis on avait bavardé, pris un petit
café. Et c'était sympa.
C'était très très bien. Voilà.
Mais ça me touche que tu aies choisi ce poème de Saint-Yves là, parce que.
Ben oui, mais qui parle de Saint-Yves aujourd'hui? Personne.
Il y a tu sais la fameuse statue de Saint-Yves rendant la justice.
Ouais.
Il y a un riche et un pauvre. Il est quand même largement penché du côté du pauvre, quoi. Hein. C'est, voilà, c'est pour ça qu'il est nécessaire.
C'est une très très belle figure.
Moi je trouve, hein. Tu sais qu'il y a une histoire, il y a une anecdote très drôle de Saint-Yves. Tu sais, quand il est revenu, donc il était à la Sorbonne, il est revenu, il est passé par Rennes, l'archevêque...
À pied, dit-on ?
Oui, l'archevêque lui a offert un cheval magnifique, et en lui proposant de rester là, hein, de trouver un boulot très bien payé, si je peux dire, quoi. Saint-Yves a dit, je rentre à la maison, donc chez moi, hein, puisqu'il est né, moi je suis né à 500 mètres de sa maison natale. Il est né en 1253, moi en 1953, et on s'appelle tous, ma mère Yvonne, mon grand-père Yves, moi Yvon, enfin tu vois, donc on est vraiment sous sa lumière. Et à la sortie de Rennes, il a trouvé un type qui faisait du stop, si je puis dire. Il l'a pris sur son cheval. Et le gars allait peut-être à Montauban, 30 km, il lui a donné le cheval, il a continué à pied. Tandis que moi, je garde ma voiture, je prends un gars en stop. C'est la différence entre un poète et un saint.
Poésie et ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Lucie Spindler pour la préparation, à Jacques Hubert pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Yvon Lemaine et à Frédéric Sirier. Vous trouverez les actualités de nos invités du soir sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.com. Mais tout de suite, c'est minuit et c'est les nuits de France Culture par Philippe Garbi.